Je dis 21 mars. On est à la moitié du carême, 21 mars. 21 mars, ça fait 10 mois si on rentre dans, que le Saint-Père a dit à tous les prêtres et à tous les fidèles que bon, il y avait quelque chose de différent maintenant. Parce que le ciel avait décidé d'ouvrir à l'Église le pouvoir du divin. Et infaillible du pape a mis une ouverture maintenant dans la messe pour que Marie puisse nous atteindre par l'Eucharistie jusque dans notre conception. Elle est mère de l'Église. Elle est mère de Dieu. Jusque dans notre conception. C'est-à-dire qu'elle peut engendrer la conception de Dieu dans notre conception. C'est pas une petite chose. Alors, il faut... On va dire, c'est... Oui, mais ça, c'est de la logorée... je sais pas quoi... personne n'y comprend rien, tout ça. Donc, il faut l'expliquer pour les enfants, alors. Puisque les vieux ne comprennent pas. Hein. C'est ça le carême, pour devenir comme des enfants. Les enfants, Jésus peut s'approcher d'eux, les prendre sous ses genoux, les caresser, les embrasser, laisser venir la manière des enfants, pas la manière théologique, c'est pas de la théologie, pas la manière intellectuelle, c'est pas de l'intellectualisme, mais c'est quelque chose de très simple, en fait. C'est quelque chose de très simple. À un moment donné, on doit pouvoir quand même comprendre quelque chose, c'est qu'on vient de Dieu quand même. Je crois qu'un enfant comprend ça. Quand un enfant s'approche de Jésus et que Jésus le caresse, l'embrasse et l'enveloppe, le met en dehors de tout ce qui sert à rien, l'enfant comprend. Et quand Dieu fait ça, il le fait toujours à travers Jésus, et quand Dieu fait ça directement, même s'il ne voit pas Jésus, l'enfant, quand Dieu fait ça, ce que Jésus fait, parce que c'est Dieu qui le fait, ben, l'enfant, s'il est séparé de tout le reste, tout ce qui n'est pas, tout ce qui est, ça sert à rien, l'enfant comprend tout de suite que Dieu l'a caressé, le caresse tout le temps, et il ne cesse jamais de le caresser, puisqu'il vient de lui. C'est Dieu qui l'a créé, quoi. Hein? C'est Dieu qui nous a fait. Même notre maman ne savait même pas que nous existions, notre papa non plus. Et Dieu, lui, était là, qui nous touchait, qui nous caressait, qui nous embrassait. Qui allait et venait à l'intérieur de notre âme, qu'il venait de créer. Ça, un enfant le comprend. Donc maintenant, il ne faut même plus faire du catéchisme pour la maternelle. Il faut aller faire le catéchisme pour ceux qui sont conçus. Faire catéchisme, non pas sans qu'ils soient nés au bout de 2 ans après leur naissance, mais il faut faire le catéchisme à ceux qui ne sont pas encore nés et qui ont 9, 8 mois avant la naissance. C'est ça, le catéchisme du monde nouveau. C'est parler à un enfant qui va être avorté peut-être un jour. C'est lui expliquer. Lui communiquer, parce que il est créé par Dieu, il a une âme, et par là, il doit recevoir le Verbe de Dieu, il doit recevoir la parole de Dieu, il doit le recevoir, hein. Il doit le recevoir dans son âme, et ceux qui le reçoivent dans leur âme, ben, vont comprendre, bien sûr, parce que Dieu s'adapte, il se fait comprendre, il est tout proche. C'est sûr, ça. Moi, je connais une maman, elle a eu 2 jumeaux, un jour, elle a conçu 2 jumeaux. Ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'était 10 jours avant la naissance, eh ben, elle ne savait pas que c'était des jumeaux. Et je connais bien, moi. Je connais bien le jumeau en question. Et donc, pendant alors, du coup, pendant aucun contact, alors, finalement, personnel, avec ces jumeaux, pendant 8 mois de... Bon, il y avait bien une grosseur, mais c'est tout. Aucun contact spirituel, humain, fraternel, maternel, paternel, aucun. Oui, si, il y avait un contact avec Dieu. Il y avait un contact avec Dieu. Là, ici, j'ai une voisine qui s'appelle Josiane. Elle a des poules. Hein? Bon. T'as un enfant, on peut comprendre ça. Regarde, je te montre. Regarde bien les œufs de Josiane. Voilà, tu vois, les œufs de Josiane, ils sont là. Ils sont dans le panier. Là. Tu le vois de tes yeux. Hein? Ben, il y a une des quatre poules. Hein? Une des quatre poules, à chaque fois. Quel pont, et c'est pas la plus grosse, hein, loin de là. Elle fait des œufs 2 fois plus gros que les autres. C'est comme ça que tu reconnais, tiens, ça c'est cette poule-là qui avait. Et à chaque fois qu'elle pond un œuf, il y en a 2. Il y a 2 jumeaux. À chaque fois. À chaque fois, il y a 2 œufs. Enfin, il y avait un œuf, puis il y a 2 jaunes d'œufs. Des jumeaux, il y a des poules qui sont comme ça. Il y a des poules qui sont comme ça. Mais la poule n'est pas au courant. Elle n'est pas au courant. Mais quand c'est une... Elle n'est pas responsable. Elle n'est pas responsable. Alors, c'est extraordinaire. Alors, les jumeaux... Quelque part, quand c'est des êtres humains, il y en a un qui est... Ça, je sais, je suis au courant, je connais bien les jumeaux, vous savez. 2 jumeaux, c'est extraordinaire quand vous regardez ce que c'est que des jumeaux. Vous êtes liés, quoi. Forcément. Puisque même les gens de l'extérieur, le médecin, personne ne le sait, là, ni les parents, rien. Donc pendant 9 mois, vous êtes, il y a un amour, un lien fraternel, spirituel, de lumière entre 2 jumeaux, c'est sûr, avec Dieu aussi. Le grand Abraham, le grand Moïse qu'on voit dans la Bible, il expliquait que s'il n'y avait pas eu le péché originel, la volonté de Dieu, la sagesse créatrice de Dieu, eh bien, il aurait voulu qu'à chaque fois qu'il crée un être humain dans une mer spirituelle, dans une mer à l'image ressemblance de Dieu, qu'à chaque fois il soit 2. C'est pas le cas, ça arrive de temps en temps, mais s'il n'y avait pas eu le péché originel, il y aurait 2 jumeaux, à chaque fois. C'est comme ça qu'il y a eu. Moïse explique ça, par exemple, pour Adam et Ève, lorsqu'ils ont conçu Abel. Et bien Abel, c'était 2. Il y avait Abel et sa jumelle, et c'était 2. Et c'est une conséquence du péché originel qu'on vit tout seul, qu'on perde un petit peu ce miroir intérieur de l'amour, du lien qu'il y a entre nous. Vous vous rendez compte que si Lazare, c'était le jumeau du riche, l'évangile, il y a un riche là, et puis il y a un pauvre qui s'appelle Lazare, et ils meurent tous les deux. Mais s'ils avaient été jumeaux, il y aurait eu un lien entre les deux. Et dans le cœur de Dieu, on est tous les jumeaux les uns des autres. On est liés à la conception de celui que Dieu a mis proche de nous. Même si on l'a oublié, même si on n'y est pas. Il ne faut pas être indifférent à celui, aux autres. On est lié à eux. Mais même une maman, elle dit, moi, j'ai pas rien. La poule, elle dit, moi, c'est d'accord, j'ai fait 2 poussins jumeaux, mais elle ne sait pas que les 2, ils sont jumeaux. Elle l'a oublié depuis longtemps. Mais un des êtres humains comme nous, qui sont repris, recréés par Dieu, par la grâce du baptême, on reprend cette connaissance, on reprend ce chemin vers notre prochain, on reprend ce chemin vers Dieu. Et je trouve que c'est dans le sang de Jésus que tous les obstacles se retirent pour qu'on puisse se précipiter et vivre de cette lumière qui fait que Dieu et les autres sont unis les uns les autres dans une très grande lucidité, dans un très grand amour, dans une très grande liberté de continuer à faire grandir, fleurir tout ça, multiplier tout ça. Mais bien sûr, il faut avoir sa sève intérieure, c'est-à-dire sa vie humaine profonde, enracinée dans le torrent. Tu plonges tes racines dans le torrent, dans le courant du torrent qui est proche. Si tu plonges pas tes racines, tu deviens comme un... On vient de le lire là dans le livre de Jérémie. Tu deviens une espèce de buisson d'épines secs au milieu d'une terre aride et désolée. Une terre aride, c'est-à-dire il n'y a pas... T'as pas l'eau de la vie originelle. C'est un corps sans eau, sans les eaux, sans la vie. Sans la vie donnée depuis le début. Alors tu es une espèce de buisson sec. Des épines aussi, enfin. Mais si ton arbre plonge ses racines et les plonge vers le courant du fleuve qui passe, les torrents de fleuves d'eau vive de la grâce de Dieu, que tu envoies, et si tu ne le perçois plus, si tu n'arrives plus à le percevoir, eh bien, il fait naître Jésus, il le rend vivant au milieu des hommes pour que tout le monde puisse le toucher, le voir, en témoigner. Et si il l'oublie encore, ben il le redonne à travers quelque chose de simple, une hostie. Mais c'est bien réellement lui. Hein. Alors à ce moment-là, ben, c'est un arbre qui ne craint pas, qui n'a pas peur. Si la vie ne tombe plus du ciel par la foi et je vois plus rien, je suis dans la nuit, ça fait rien, j'ai mes racines en Dieu quand même. La conception qui fait que je suis conçu est reliée à la conception de Dieu. Dieu est toujours vivant. Et même si ça va très 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 mal, le ciel ne fait plus tomber de pluie, c'est pas grave, j'ai mes racines dans le torrent. J'ai pris en main ma conception, je suis moi-même l'instrument de la conception de mon enfant. Je suis pas comme une poule. Et ce qu'on fait comme effort de carême, à la demande du Saint-Père, à la demande du ciel, à la demande de le, du, c'est à la demande de tous les enfants qui ont été... qui ont été conçus comme ça dans le monde, et puis qui ont été oubliés, qui ont été méconnus, qui ont été... On ne les a même pas regardés. C'est pire que Lazare. Même leur propre mère ne les a même pas regardés, même pas une seule fois. Et une demande quand même qui est faite. Que comme une nouvelle maternité incarnée descende dans l'Eucharistie en nous pour venir courir vers eux. Vers nos enfants, si j'ai eu des enfants, et mes enfants, oui, mais ils ne sont pas tous avortés, mes enfants, il y en a qui sont sur la terre. Ben, donc, j'ai plus de contact avec eux. Mais bien sûr que si, que j'ai un contact avec eux, puisque je ne suis pas une poule. Le psaume 90, on dit, ils te porteront sur leurs mains. Même les anges sont dans l'admiration de voir la conception. Dans la vie spirituelle d'une maman. C'est extraordinaire, n'empêche ça. C'est vrai. Alors ils te portent sur leurs mains par la grâce pour que tu cours, tu vas vers la conception de ton enfant. C'était il y a 40 ans. Tu cours vers la conception de ton enfant. Tu dévales les pentes. Tu atteins la conception de ton enfant, porté par le monde spirituel. De l'étonnement angélique, hein, de ce que c'est que la conception. Et, et ils te portent sur leurs mains, rien ne t'arrête, même s'il y a des milliers, des milliers, des dizaines de milliers de choses contraires qui vont à contre-courant. Rien ne t'arrête, tout est écarté, tu marches sur la vipère, le scorpion, le dragon, le démon tour. Et tu vois le salaire du méchant, tu vois que le méchant n'a pas réussi à t'écarter de ton enfant. Et tu le reprends, ton enfant. Il ne faut pas oublier. C'est ça la mémoire. Jésus dit, je dis la messe parce que c'est la mémoire de moi. N'oubliez pas. Alors on est porté comme ça vers la conception de Dieu lui-même aussi. Quand je dis ça, je ne m'entends pas parler. Quand l'Église dit ça, quand le prêtre dit ça dans un serment de carême, il ne s'entend pas parler. Il n'essaie pas de se séduire lui-même. Le Saint-Père proclame la vérité quand même. Jésus. Alors évidemment, l'Évangile d'aujourd'hui est facile à comprendre. Alors, une fois que tu es en enfer, d'ailleurs, pour ceux qui disent l'enfer n'existe pas, Jésus n'a jamais dit ça, m'excuse, mais enfin, on est venu du carême, on peut quand même rappeler que Jésus, il a donné la parabole du riche et du pauvre Lazare. Hein. Bon, donc on voit que le riche, le Lazare a été transporté dans le sein d'Abraham, c'est-à-dire dans la grâce, la participation à la vie divine. Hein. Il est complètement désaltéré. Hein. Il peut plonger son doigt pour donner la dernière coup de taux sorti du cœur de Jésus sur la croix. Mais Lazare, lui, il n'a pas été mis dans la grâce, dans la mort, non. Il a été mis dans la terre désolée, sèche. Elle a été plongée dans le tartare, dans le feu qui brûle.
Vous avez dit Lazare, c'est pas Lazare. Hein? Vous avez dit Lazare.
Le riche.
Oui, le riche.
Il était plongé. Plongé dans le tartare. C'est dit un lieu de torture. Et personne. Bon. On dit, mais c'est terrible ça. Ben, que disent pas que le enfer, Jésus n'a jamais parlé de ça. Ben, je m'excuse, mais enfin, bon, si, malheureusement, enfin. Mais heureusement aussi que il y a un abîme. Cet abîme entre les deux, entre l'enfer et la dernière goutte d'eau. Qui est sorti de Jésus crucifié, de son cœur, de Jésus, est sorti, et Lazare, il pourrait avoir sa dernière goutte d'eau. Mais il y a encore un abîme qui fait qu'il ne peut pas l'amener jusqu'à ceux qui sont en enfer, dans le tartare, dans le feu, dans une terre. Ils sont tout proches et plantés aussi dans une terre. Il a été plongé, il a été enterré dans la terre, tandis que Lazare, lui, il a été emporté par les anges. Dans la dernière goutte d'eau incarnée de Jésus, du Verbe de Dieu, il a été conçu à nouveau pour le ciel éternel. Et entre les deux, il y a un abîme. Et bien cet abîme n'est pas infranchissable, quelque part, parce que c'est vrai, quand Jésus donne cette parabole, c'est pas plongé comme ça. En chacun d'entre nous, dans cet abîme. Et peut-être qu'aujourd'hui, si je suis une maman, si je suis un papa, si je suis un frère, si je suis une sœur, si je suis un enfant de Dieu, je peux prendre la dernière goutte d'eau. Et avec la Jérusalem dernière qui descend jusqu'à nous, franchir cet abîme et donner la dernière goutte d'eau à ceux qui sont dans le tartare. C'est sûr que dans le tartare, il y a le tartare éternel et il y a le tartare qui n'est pas éternel. Il y a un enfer qui n'est pas éternel, on appelle ça le purgatoire, le bas purgatoire. Il faut prier, il faut aider les pauvres qui sont au purgatoire. J'imagine que c'est un amour fou d'une maman pour un enfant qui peut être en enfer. S'il y a cet amour fou, si cet amour est là, ce ne sera pas un enfer éternel parce qu'elle peut, sur la terre, prendre la dernière goutte d'or et aller jusqu'à sa conception de cet enfant et faire revisiter par Dieu dans cette goutte d'eau de Jésus le moment de la conception de son enfant. Faire renaître l'amour initial de son enfant, elle qui est sur la terre. Et faire renaître cet amour initial qui fait la mémoire de cet enfant, qui fait la liberté de cet enfant, qui fait l'intériorité de cet enfant. Et elle a le pouvoir de réveiller la liberté intérieure de cet enfant, sans qu'il le sache peut-être. Mais s'il y a un tout petit peu d'amour, alors son enfer ne sera pas éternel. On a une très grande responsabilité spirituelle et un très grand pouvoir d'amour et de rédemption parce qu'on est chrétien. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'il faut refaire un catéchisme plus... Il faut refaire un catéchisme pour les enfants conçus. Pour que les enfants conçus eux-mêmes l'entendent et le comprennent. Ce n'est pas un développement d'exégèse théologique, intellectuelle, messianique, une espèce de... Non, c'est l'ouverture d'une conception nouvelle. Quand tu as deux jumeaux, là c'est entre un frère et un frère, hein. C'est pas entre une mère et un enfant, mais son enfant, mais tu as deux jumeaux. Comment ça se passe? C'est 9 mois avant la naissance. Hein? Par exemple, nous on est, mon jumeau, c'était le 20 décembre, donc 9 mois avant, c'est aujourd'hui. C'est l'anniversaire, le vrai anniversaire, c'est l'anniversaire de ta conception. De fêter l'anniversaire des gens le jour de leur naissance, c'est une très grave erreur. Pas une grave erreur, parce que c'est la première fois qu'on voit le visage de l'enfant, qui déjà existe, vit, depuis 9 mois. Mais là où je suis la maman et le papa, c'est pendant ces 9 mois. Alors, il n'y en a qu'un qui est témoin de ça, c'est le jumeau. Comment ça se passe un jumeau? Ben, ah, ça y est! Tu commences à exister dans une conception, c'est tout un univers intérieur d'amour et de liberté qui est en toi. Et du coup, tu rends grâce. Tu remercies. Tu ne cesses de remercier. Tu es dans une gratitude. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de l'âme d'un enfant? Mais en plus, est-ce que cette âme est très, 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 très minuscule et très, 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 très petite? Non, elle a la grandeur intérieure de la présence de Dieu. Elle a l'espace intérieur immensément grand de la vie spirituelle. Tu n'es pas tout petit devant le monde angélique et devant la création tout entière. Quand tu es conçu 9 mois avant la naissance, ta vie a une ampleur, une intensité très, 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 très profonde, très grande. Tu peux recevoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Et tu reçois en effet beaucoup de lumière. Et tu es libre de dire oui. Et tu dis oui d'ailleurs. Ce oui, c'est une gratitude, c'est une joie, c'est une paix. La vie intérieure, c'est pas une vie inventée, hein. Puis, cette vie, elle se multiplie. Elle grandit. Elle reste pas comme ça. Ah ! Pendant 9 mois. Non, non. Elle grandit. Cette vie. Et puis, les savants disent, voilà, Très rarement 3 jours après, quelquefois 4, plus quand même le 5e jour, puis jusqu'au 11e jour, après que moi j'ai commencé à exister, tandis que j'augmente, je multiplie, même mon corps se grandit, tout ça. Dieu prend un des jaunes d'œufs, enfin, des génomes, on appelle ça le génome, une partie de moi, il le prend dans sa main, il me l'enlève de moi, et il met l'âme de mon jumeau. Mais à l'intérieur de moi. Et je vois Dieu qui crée mon jumeau. Je le vois. En même temps que Dieu le crée, je le vois. Mes parents ne voient rien du tout. Ma mère, elle l'a vu 9 mois après. Et encore, elle l'a pas vu. Et encore aujourd'hui, elle ne comprend pas ça, qu'on peut voir de l'intérieur, l'âme intérieure, la vie, la couleur, l'arc-en-ciel, l'odeur, le parfum, la rosée, la vesprée d'un autre que soi, dans l'intérieur de soi, dans la communion et l'unité des deux. À l'intérieur de la lumière de Dieu, j'ai vu le Verbe de Dieu illuminant l'âme de mon frère. Je l'ai vu. Ça m'a marqué, ça. Ça s'est imprimé dans ma mémoire. Ça a provoqué une nouvelle gratitude. Ça m'a permis de voir que l'amour de Dieu et l'amour du prochain sont un jusqu'à l'apparition du cœur. Où ils sont 3. Et donc je vais envoyer un message à ma maman, je vais envoyer un message de soif pour recevoir la grâce. À ma maman l'Église, je vais envoyer un message, ce message sera entendu, j'espère. Et donc je prends après le premier mois et demi à peu près. Je rentre dans une vie d'espérance et je réclame la grâce. Et on est 2 à le faire. Et on sait que c'est important. Et on sait que ça doit grandir. Et on sait qu'on doit être fidèle, être persévérant à ça. Alors quand la grâce est donnée par Dieu à l'Église de la Terre, de venir et de recevoir cette lumière pour y descendre, y déposer la dernière goutte d'eau de Jésus. En descendant, en venant visiter à nouveau une conception qui s'était perdue, si je puis dire, une conception que j'ai oubliée, une conception à laquelle j'ai pas fait attention, une conception dans laquelle j'ai pas pénétré spirituellement, dans une maternité spirituelle, pour le temps et pour l'éternité, eh bien, je peux y redescendre, et les anges m'y portent, et rien ne peut m'arrêter, rien ne me blesse. Et même sur toutes les forces de ténèbres, les pierres, etc., le côté matériel des choses. Je traverse ça. Aucune force de la mort ne peut m'atteindre. Il en tombe 1000 à mes côtés, 10 000, 20 000, on s'en fiche, 2 millions. Rien ne peut m'arrêter à revenir, être la mère de celui que j'ai conçu. Et là, on a un peu la vie de ma Sainte Vierge, la Sainte Vierge qui rien ne l'arrête continuellement pour reconcevoir Jésus. Elle est mère de Dieu. Rien ne l'a jamais arrêté pour reconcevoir Jésus. Et Dieu lui a donné tellement à Marie que maintenant qu'elle est dans l'Assomption, Dieu donne à travers le Saint-Père que c'est le moment pour Marie de commencer à faire ce qu'elle avait fait pour la conception de Jésus, de le faire aussi à travers nous, à travers l'humanité de la terre, pour avoir ce pouvoir de reconcevoir, de refaire visiter par la grâce toutes les conceptions humaines, surtout les conceptions, bien sûr, qui sont de nous. Est-ce que c'est intellectualisme de dire ça? Ou est-ce que c'est concret, je veux dire? C'est très concret. Et attention, je ne fais pas une demande en disant, Seigneur, je te demande de venir. Non, non, je le reçois. Dans la messe, je reçois cette course vers la mémoire et la conception du monde nouveau qui est devant nous. Je suis sûr qu'il y en a qui sont choqués de dire, mais qu'est-ce que c'est cette histoire que... Alors pourquoi en l'an 2019, c'est le dernier carême? C'est quoi ça? Ça veut dire quoi si c'est du messianisme? C'est du faux messianisme? C'est pour tromper les gens. Si vous suivez moi, parce que je vous enseigne quelques trucs, une fausse espérance, un faux messianisme. Non, c'est pas un faux messianisme, c'est pas ça. C'est le pape qui a dit, maintenant, là, bon, je vais pas réexpliquer, hein. Et c'est vrai que c'est le dernier carême. Pourquoi c'est le dernier carême? C'est le dernier carême où on doit redémarrer à partir de la nouvelle naissance. Maintenant, il faut à partir de maintenant, rentrer dans des carêmes. Après ce carême-ci, on pourra... Si on ne rentre pas jusque dans la nouvelle conception et non pas la nouvelle naissance, on n'en fera pas assez. En latin, alors là d'accord, je vais faire de la théologie. En latin, on dit c'est le dernier carême. Pourquoi? Parce que c'est un terminus, en latin, un terminus ad quem. Ah, c'est le dernier carême, c'est fini. C'est le terminus où on devait aboutir. Terminus ad quem. Saint Thomas, il fait toujours la différence entre terminus ad quem et le terminus a quo. C'est le terme à partir de quoi tout commence. Oui, c'est le dernier carême. À partir de maintenant, cette année, là, on est quand même dans le 302e jour. Le 21, c'est quand même il y a 10 mois, hein, c'est ça. Cette année va se terminer, 360. C'est 333 jours au vendredi saint. Et puis environ un an après, ce sera la Pâque, ce sera la Pentecôte, pardon. Ça y est, l'année, ce sera ouverte. Et c'est un terminus à partir duquel, ça y est, l'humanité va pouvoir commencer sa véritable histoire. Sans être vue. Par le démon. Sans être vue. Pas repérable par l'Antichrist, parce qu'on aura la perspicacité, on veut rentrer dans la perspicacité, dans l'intelligence créée par Dieu en nous, dès la conception. Et ça, si c'est pas visible par la mer, tant mieux, par l'humanité, hein, qui est notre fausse mère. Parce que du coup, l'Antichrist n'a pas accès à ce que nous allons vivre dans l'Église de Jésus. L'histoire de l'Église commence dans la Jérusalem nouvelle. C'est une nouvelle conception. Oui, c'est le dernier carême de ce point de vue-là, vous voyez ce que je veux dire? Là, j'ai connu, quand j'étais à Cotignac, j'ai connu un petit garçon. Il avait 3 ans et demi. Philippe. Il s'appelait Philippe. Et sa maman s'appelait Bernadette. Et Bernadette était une femme d'une quarantaine d'années, un peu moins, peut-être, bien en imposante, on peut dire. C'était une artiste. C'était une artiste. Elle vivait à Paris et dans les métros. C'était une artiste, vraiment, elle chantait, elle avait une voix, mais à faire pâlir. Et elle avait beaucoup de cœur. Mais vraiment, une magnifique. Donc cette petite était très pauvre. Elle était avec elle aimait bien être avec les pauvres. Elle aimait bien être avec les mendiants sous les ponts. Ça ne l'effrayait pas. Elle avait pas du tout. Et donc elle était dans le métro. Elle aimait beaucoup que les gens sourient, que les gens regardent ce qui se passe. Alors elle rentre dans le métro, et puis pendant que le métro circulait comme ça, dans le métro, elle rentrait et elle chantait. Alors les gens qui étaient là comme ça, dans la désolation, dans le méchaume, ils entendaient ça, ils disaient, mais qu'est-ce qu'il peut chanter aussi joli? Et ils la voyaient, et petit à petit, à la sortie du métro, les gens étaient contents et souriaient. C'était heureux. Elle a fait ça pendant des années. C'était son bonheur, c'était faire ça. C'était une artiste. Vraiment, elle était... Attends, c'était un chant... C'était vraiment une voix magnifique. C'était à la limite du monde angélique, du monde divin et du monde humain. Elle avait vu ça. Elle vivait ça. Elle chantait ça. C'est pas beau ça? Voilà une maman ce que c'est. Puis à un moment donné, c'était soir, c'était tard. Et c'était un dernier métro. Et donc il y a quelqu'un qui était un peu, peut-être, je sais pas, subjugué, je sais pas quoi, qui l'a violé. Mais il était tout seul, il n'y avait plus. Enfin, il était deux ou trois, mais personne, les gens ne s'en occupent pas, vous savez, dans ces cas-là. Et donc voilà qu'elle sait que quelqu'un l'a conçu. Or, elle était au jour vraiment de la conception, elle était au jour sommet, comment dire, elle était en pleine ovulation. Donc, elle a été un peu effondrée de cette agression, un peu, si je peux dire, qui correspond à l'agression du péché originel, de la transgression, et cette joie de l'ange, de Dieu et de l'homme, s'est interrompue. Elle s'est allongée sur le... de la banquette, là, sur l'endroit où on s'assoit, dans les couloirs du métro, là. Dans les minutes qui ont suivi, le type s'est enfui, bien sûr, c'est parti. Et elle avait encore, dit-elle, l'impression du chant qui revenait vers elle. C'était reçu dans le cœur des gens, mais ça revenait vers elle. Elle était comme ça, étendue, et son corps était ouvert. Son cœur était ouvert, elle ne pouvait plus chanter, mais d'un seul coup, elle a dit, j'ai vu une lumière à l'intérieur de moi, ici, en dessous de mes entrailles. C'était comme une lumière d'amour fulgurante, toute petite, et j'ai vu que l'enfant était là. Elle a assisté à la conception de cet enfant. Philippe, c'est beau. Et puis l'enfant est né. Moi, j'ai vu cet enfant. Et elle a porté dans ce champ nuptial originel cet enfant depuis l'instant où Dieu l'a créé jusqu'à sa naissance puis son baptême. Ne dites pas à un jumeau ou à cette femme que L'enfant ne vit rien à l'intérieur de cette lumière. Et l'enfant grandit spirituellement, son amour, sa soif, son cri. Il bouleverse la création entière de son chant originel. Hein? Et ce chant nous appartient. Notre propre chant a besoin d'être revisité. Voilà la grâce que nous avons et que le Saint-Père nous propose pour ce carême. Que la maternité divine de Marie vienne jusque dans la matière de notre conception, qu'elle soit visitée par Dieu lui-même, parce qu'elle engendre Dieu dans le Verbe. Elle engendre la deuxième personne de la très sainte Trinité avec le Père. Elle vient sur ses mains-là, sur ses actes intérieurs de la vie divine, à travers l'Eucharistie, jusqu'à notre conception. Nous qui sommes les membres vivants du corps mystique vivant de Jésus vivant. Pour mettre Dieu à l'intérieur de notre vie intérieure. Que ce qu'on contemple des choses, ce ne soit pas uniquement des contemplations qui viennent du démon ou d'une terre aride et pleine de méchants. Une terre aride complètement désolée, habitée par l'esprit du monde. Qui est aveuglé sur la lumière de l'innocence. Le pape Jean-Paul II nous a, pendant des mois et des mois, sans arrêt, tous les jours, il a dit il faut revenir, il faut revenir à l'innocence de l'homme. Reprendre en main cette innocence divine pour la porter dans les je suis que nous sommes. Dès les premiers moments de notre inscription dans le livre de la vie, c'est pas une petite chose, la parole de l'Église à travers le Saint-Père, dans le monde nouveau mis en place et institué par le Saint-Père. C'est pas une parole inutile. Parce qu'en plus, elle est féconde. Alors, elle est efficace. Donc, je suis. Et du coup, je n'ai plus aucune espèce d'inquiétude à avoir. Je peux réengendrer avec Marie et l'Église la conception de chacun de mes enfants et déposer en eux durablement. Hein. Et donc, ils sont arrachés efficacement, de manière féconde et réelle. Au pouvoir de l'Antéchrist et de Lucifer, à leur heure et s'en rendre en compte, en tout cas, les a détachés. Et donc, le monde nouveau n'est pas un monde de désespérance. C'est un monde de confiance, mais qui ne se voit pas. Ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas. C'est vrai, ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas. L'Antéchrist n'y verra rien. Et il faut bien que le pape explique aux chrétiens et aux hommes de la terre comment ils doivent faire pour ne pas être vus par l'Antéchrist. Saint Albert le Grand dit, quand ce sera le temps de l'Antéchrist, il faut éviter de regarder, de poser son regard sur l'Antéchrist et que l'Antéchrist pose son regard sur nous. Eh oui, parce que ça fait une hypnose, hein. Et donc, il ne faut pas être vu. Alors, comment est-ce qu'on fait? Mais il suffit de revivre l'Église dans la conception. Jusque dans 9 mois avant la naissance. Dans la naissance et la conception de Jésus en Marie. Reconnu par Joseph, parce que même si c'est une opération du Saint-Esprit qui est en Marie, Joseph l'a reconnu. C'est pour sa vie qu'il voulait s'effacer. Et donc, Saint-Joseph devient l'instrument le plus important de notre entrée dans le monde nouveau, parce qu'il prend l'enfant et la mère, et il nous amène dans la coupe de la dernière bénédiction. Est-ce que vous comprenez? Et c'est un effort qu'on doit faire, par la foi, d'aller à la conquête de cette simplicité originelle, qui est en même temps une simplicité terminale. Terminus, à quoi, à partir duquel nous pouvons commencer à vivre de la grâce que Dieu désire voir pour nous. Ben, les autres, qu'est-ce que vous voulez? Tu aurais beau avoir pour les autres qui ne le feront pas, qui resteront dans le monde ancien. Ah oui, oui, oui. Dire maintenant, écoutez bien ce qu'il dit le riche de la parabole du pauvre Lazare. Il dit, ben, c'est trop horrible, hein? C'est trop horrible cette torture dans le feu. C'est trop horrible. Et il réclame à Dieu que pour ses 5 frères, par la voie du spiritisme, ils puissent être convaincus. Ah oui, alors dans l'esprit du monde, alors même chez les catholiques, hein, les NDE, le spiritisme élaboré, les morts, ouais. Ah si les morts pouvaient venir dire à nos frères, à nos enfants, s'ils pouvaient, par le spiritisme, par les énergies, par l'état, par la médiumnité, par les esprits charismatiques faufileurs et les esprits charismatico glisseurs. C'est un autre toboggan, celui-là. Mais alors, on leur fait un serment en disant, mais non, faut aller dans la conception. Faut aller dans la conception que votre pied ne heurte aucune pierre. Et dans cette conception, revenir à cette espèce d'ouverture et faire rentrer dans votre vie intérieure la foi. La foi. La foi en Dieu, la foi en Jésus, la foi dans l'Église, la foi dans le fruit des sacrements. Oh ben non, on ne peut pas me dire, mes 5 frères, ils sont en train de s'enivrer tous les soirs, qu'il faut revenir à la foi, tu vas quand même pas... Ben non, faut quand même... Oh. Et Jésus dit, ben, ils ont Moïse et les prophètes. Ah non, ça c'est la foi, ça c'est... C'est des pédophiles, tout ça, c'est des pédophiles, c'est pas possible. C'est pas des gens qui respectent les enfants, ça, c'est le contraire de l'innocence. On n'en veut pas, Moïse des prophètes, enfin, des soi-disant Moïse des prophètes. Si c'est moi qui viens, et que je ressuscite d'entre les morts, et que je viens chez eux, eh bien ils croiront toujours pas. C'est par la foi. Et effectivement, Jésus est mort, il est ressuscité, il s'est présenté devant eux à Jérusalem. Ils n'ont toujours pas cru. Quand tu n'as pas la foi, tu ne peux pas être juste. Et la foi seule nous fait nous reprendre en main comme enfants de Dieu, dans une nouvelle conception. Notre conception, nous la donnons et nous voulons qu'elle soit visitée, qu'elle soit habitée et qu'elle reçoive la conception de la Vierge Marie. Et que cette conception de la Vierge Marie se déploie jusqu'à la conception du monde nouveau. Est-ce que c'est pas le dernier quand même? À partir de quoi? À partir du jour duquel nous pouvons demander ça et vivre de ça. Voilà l'effort. C'est un travail. Ça transforme notre vie spirituelle chrétienne, ça. Et toute transformation de la matière demande un effort. Est-ce que vous comprenez? Donc il faut prier. C'est une prière eucharistique. Il faut donner du temps à la prière eucharistique. Est-ce que vous avez une question? Alors aujourd'hui c'est tout nouveau, hein? Je suis d'accord, aujourd'hui c'est tout nouveau. On n'y avait pas pensé. On dit, mais non, c'est un amas cellulaire, n'existe pas. Hein? On n'y pense pas. Donc c'est tout à fait nouveau. Et le pape, il dit, attends, si vous ne comprenez pas ça, c'est que vous êtes des tueurs à gages. Tu es une maman, tu viens de concevoir un enfant comme Bernadette, et toi, tu vas vite, vite, vite payer un tueur à gages pour supprimer la sublime, royale, immensément, étonnamment libre liberté nouvelle qui est là. Beaucoup plus déployée que celle du riche qui se goinfre. Quoi? Le pape a dit ça? Tueur à gage? Le médecin qui aide les gens? L'infirmière? La maman qui... Le papa? Le mari qui dit non, tueur à gage vite! C'est nouveau ça! C'est tout à fait nouveau. L'Église va proclamer que cette splendeur de la vie originelle, de notre vie véritable, qu'il faut reprendre en main 9 mois avant la naissance, est une splendeur royale, divine, humaine, incarnée, personnelle, réelle, déployée. Et quand l'Église va proclamer l'animation immédiate, elle va balayer tout ce qui empêche le monde nouveau. Alors notre terre sera plus désolée, voyez, le buisson qui est dans le désert d'une terre désolée, notre terre, c'est-à-dire notre corps, ne sera plus désolé, c'est-à-dire dans le méchaume, c'est-à-dire dans l'inversion métaphysique. Dans une vision métaphysique totalement à l'envers. La métaphysique est à l'endroit, c'est une métaphysique, c'est une vision, si vous préférez, de vérité qui plonge ses racines dans la vérité et qui aboutit à la vérité et qui se déploie dans la vérité. C'est pour ça que ce n'est pas un petit combat. Ça demande un grand travail. Et l'Église est en travail en ce moment. Elle va enfanter, engendrer, universellement et pour la nature humaine tout entière, les portes angéliques de la communication d'une nouvelle conception. Parce qu'elle va établir dogmatiquement, c'est-à-dire en ouvrant le temps de son efficacité, de sa réalisation effective par un miracle de Dieu. Elle va ouvrir les portes de notre conception à la réception eucharistique.